pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en 1968, au printemps. Annette est étudiante à Assas, elle fait du droit, mais son père lui a aussi payé des cours de dactylo, parce qu'avec ça, dit-il, elle trouvera toujours du travail. C'est comme ça qu'elle se retrouve à taper des tracts à longueur de journée. Parce que les gars de son mouvement Mao, eux, ne savent pas, disent-ils, taper à la machine. Quand elle s'avise de vouloir faire autre chose au sein du mouvement, on lui répond en substance « tais-toi et tape ». L'équitable répartition des tâches a encore du chemin à faire. Alors Annette claque la porte et va voir ailleurs. 15 ans plus tard, ma mère à moi me dira « n'apprends jamais à taper à la machine, ni à coudre, ni à faire la cuisine, comme ça personne ne pourra te demander de le faire ». Mais l'histoire d'Annette ne s'arrête pas là. Elle s'engage au sein du mouvement VLR, Vive la Révolution, et continue son éducation politique. Elle s'interroge de plus en plus sur le militantisme au féminin, la question des femmes. Elle pense que le préalable à toute réflexion, ça serait de réussir à s'imposer auprès de ces militants virils et violents, avec leurs matraques, leurs casques et leurs blousons noirs qui mènent les manifs et les affrontements avec les CRS. Annette aimerait aussi arriver à prendre la parole en AG, dire les choses intelligentes et révolutionnaires qu'elle a à dire, bref, exister et faire avec ce qu'on appellera 50 ans plus tard le man-terrupting, cette manie des hommes de couper la parole aux femmes en public ou en réunion. La bascule pour Annie, le jour où elle dit non une bonne fois pour toutes au gauchisme macho, se passe dans le Nord. Avec une autre militante du VLR, elle est allée soutenir des mineurs en grève, représentants par excellence de la classe ouvrière. À 3h du matin, elle fait le pied de grue sur un piquet de grève quand deux mineurs lui proposent d'aller rejoindre d'autres camarades. Elle accepte, mais dans la voiture, les deux mineurs sont silencieux. Ils s'arrêtent brusquement dans un bois et attendent, toujours en silence, vaguement menaçant. Annette, seule, ne sachant même pas où elle se trouve, a la peur de sa vie. Elle convoque toute l'assurance qu'elle a apprise de ces derniers mois de militantisme et parvient à les convaincre de la ramener au piquet de grève d'où ils viennent. Face à ces deux gars qui sont sur le point de la violenter ou pas, qui ont peut-être l'intention de la violer ou pas, elle parvient à s'imposer, à se faire respecter, à dire non. De retour à Paris, Annette refuse désormais de se battre aux côtés des ouvriers. Les femmes doivent résister pour elles-mêmes, travailler à leur lutte, et reprendre possession de leur corps. Désormais, Annette Lévy-Villard sera féministe. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre et jusqu'à 14h, deux autres histoires singulières de ces filles de mai pour lesquelles la révolution de 68 a d'abord été une révolution sexuelle, féminine, féministe. Ainsi soit-elle, un reportage de Delphine Saltel en prélude au grand week-end Imagine que France Culture organise avec le Centre Pompidou et dont je vous dirai davantage à la fin de cette émission.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
En mai 68, enfin l'année scolaire 67-68, je suis en troisième. J'ai 15 ans. L'agitation... Je ne la connais pas encore, mais en tant que gamine de 15 ans, bon, je m'éveille au monde et mes copines avec moi. Dans mon lycée, qui est un lycée de 2000 filles de la banlieue parisienne à Sceaux, à l'époque, l'éducation n'est pas mixte. Donc le règlement intérieur est assez strict et pour les filles en particulier, il est interdit de se maquiller, il est interdit de porter des pantalons excepté en hiver quand la température descend en dessous d'un certain seuil et il est obligatoire de porter une blouse qui doit être bleue une semaine et tout le monde doit avoir la bleue et l'autre semaine. Les blouses sont obligatoirement brodées avec le nom et la classe de chaque personne, ce qui fait que pour toute personne de l'administration, on sait exactement qui est l'élève. Ça facilite le travail des surveillants. depuis qu'on avait commencé la scolarité, c'était comme ça, donc c'était normal. Mais il y avait des grandes à qui ça paraissait insupportable. Il y avait des grandes qui, par exemple, venaient maquiller et que les profs envoyaient à l'administration, qui risquaient de se faire renvoyer, donc elles allaient se débarbouiller. Donc un jour, et c'était vraiment exceptionnel, il y a dans la cour un rassemblement de beaucoup de filles, au moins 200, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, de là où je suis, j'aperçois ce grand rassemblement et la silhouette du censeur, ce qui est absolument inhabituel. Imaginez, elle est habillée comme l'était Marie Curie dans les photos qu'on voit de l'époque. Elle avait encore une robe longue, elle était repérable de très loin et elle était descendue dans la cour, ce qui était tout à fait inhabituel au milieu de ce rassemblement de filles. Et on voit le censeur, et je pense que la présence du censeur fait venir encore plus de filles, parce que le censeur est toujours dans son bureau, c'est quelqu'un qu'on voit très rarement. Donc là, de la voir, cette dame repérable, dans la cour, elle ne devrait pas être là, le censeur. Finalement, ce qui nous choque, c'est qu'elle vient sur notre territoire. Ça provoque aussi une surprise, et sans doute, si elle est là et il se passe quelque chose, il faut qu'on y soit. Alors, pourquoi elle est là ? On ne le sait pas très bien. On sait qu'elle cherche une fille et que la fille en question est protégée par le groupe le plus proche d'elle pour aller dans les toilettes. Cet élève qui fuyait le censeur portait un jean. C'était une provocation. Le jean, c'était l'habit des blousons noirs. C'était un vêtement prohibé parce que pas correct. Pour des jeunes filles de 68, porter un jean, c'est mal. Et elle sait qu'elle a fait quelque chose qui peut lui valoir de se faire exclure. Il y avait des élèves avec elle qui la protégeaient, mais quand le censeur est arrivé à la poursuivre, il y avait autour d'elle beaucoup plus que ses amis. Il y avait une grosse partie de sa classe. Et puis, comme il y avait un grand groupe et que le censeur était là, ça en a fait venir beaucoup plus. Et c'est devenu une espèce de manifestation dans la cour. C'était la première fois que ça se produisait dans le lycée. Donc, moi, je vois ce groupe compact de filles qui essayent de protéger une fille pour que le censeur ne sache pas qui c'est. Il y a trop de filles entre elle et la fille qu'elle cherche pour qu'elle puisse l'attraper. Les filles courent, les filles sont jeunes, et elle a sa dignité, elle marche plus doucement, elle est raide comme un piquet, et en plus elle attend de tout le monde de la déférence, du respect, qu'aujourd'hui on ne lui donne pas, parce qu'elle voudrait que les filles s'écartent devant elle, et ce n'est pas ce qui se passe. Donc elle suit le groupe. Mais elle ne rentre pas dedans parce que le groupe ne la laisse pas rentrer dedans. Donc, il y a tout un groupe qui l'aide pour qu'elle aille aux toilettes, qui sont au bout de la cour, en fait. La cour est terminée par les toilettes. Donc, tout le groupe se dirige avec cette fille vers les toilettes où elle s'enferme. Comme ça, le censeur ne sait pas qui est là. Et dans les toilettes, cette fille qui savait qu'on n'avait pas le droit de porter un jean, dans son sac, elle avait sa jupe, elle met sa jupe et elle ressort en jupe, et ce qui fait que le censeur n'a jamais su qui avait fait cette provocation. Pour moi, c'est le début d'un mouvement dont je veux être. C'est-à-dire des jeunes qui sont ensemble pour faire quelque chose. Je ne pense pas encore à cette époque-là pour changer le monde, mais je vais le penser très vite, dès le début du mois de mai. Oui, de jeunes qui, parce qu'on se met ensemble, on peut faire des grandes choses.
On nous dit... Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Qu'est-ce que tu fais ? La révolution.
Si on vient pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Si on vient pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin.
Monsieur.
Bonsoir, je suis votre voisin.
Vous savez qu'en rentrée, ça me fera plaisir.
Et si on échangeait nos papiers d'identité?
Ça fait 34 ans que je m'appelle Henri-Marie-Marcel-Jean. Alors moi, je voudrais vraiment changer.
Tu veux t'appeler comme moi? Viviane Algérie, c'est bien, non? Il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse. Moi, je suis née dans le 15e, j'habite toujours le 15e, je voudrais changer.
Que sera 1968? Je ne le prédis pas.
Et si on arrêtait tout?
France Culture, les pieds sur terre.
En 67, je suis juste sortie du lycée où je venais de passer une année absolument formidable en philo. En plus, j'étais au lycée pratiquement une des rares élèves venant d'un milieu ouvrier. Presque toutes les élèves venaient de la moyenne bourgeoisie ou de bourgeoisie. Mon père était un tailleur de pierre, il venait d'Italie. Et ensuite, il a trouvé un travail comme maçon, il est venu chercher sa famille et moi je suis arrivée en France à ce moment-là. Donc on était en 51. Nous étions dans un lycée où il n'y avait que des jeunes filles, avec des professeurs femmes. On ne portait pas de pantalon, sauf lorsqu'il faisait très froid. Et encore, il fallait mettre une jupe par-dessus. Enfin, vous voyez l'atmosphère, on n'avait pas le droit de se maquiller. Donc tout ça, c'était l'atmosphère. Et arrive notre prof de philo, alors un homme qui, à mon avis, à l'époque, ne devait même pas avoir 30 ans. Il devait avoir 25, 26 ans. Il faisait du théâtre. Il arrivait fatigué, il s'asseyait sur le bureau au lieu de s'asseoir derrière. Il nous faisait hurler parce qu'il nous parlait de l'enfant polymorphe, du pervers polymorphe. Et ce prof de philo, ça avait été une révélation pour moi. Mais seulement, j'étais un peu timide, donc j'étais un peu en retrait. Il a commencé à partir de Pâques à aller au café avec des élèves. Alors moi, je mourais d'envie d'y aller. J'étais jamais allée dans un café. J'étais élevée de façon extrêmement stricte par ma mère. J'avais pas le droit de sortir. Et en cachette, je suis allée moi aussi au café. Alors je ne disais rien du tout. J'écoutais les autres parce qu'en plus les autres, elles allaient au théâtre, elles allaient au cinéma. Et moi, ça pas du tout. Donc ce prof, ça a été la révolution personnelle. Je me dis, mais alors voilà, ce prof-là, contrairement aux autres, il n'a pas peur de descendre de son piédestal. Et donc, pour moi, ça m'ouvre tout un... On peut vivre différemment de ce qu'on nous dit. Et donc, ça commence à bouger chez moi. J'ai l'impression que j'ai la vie devant moi. Je suis pleine d'enthousiasme, vraiment. Et je me dis, je vais aller en faculté et je vais faire des études. Et là, coup de théâtre. On me convoque, la directrice et surveillante générale me convoque et m'explique que je suis étrangère, que je n'ai donc pas droit à des bourses pour entrer en faculté, que d'autre part, c'est vrai que je suis une bonne élève, mais que je ne suis pas brillante, et que donc, elle me conseille fortement de ne pas aller en faculté, mais d'aller apprendre un métier. Et comme on vient de se créer les classes de brevet de technicien supérieur de secrétariat, d'aller me faire un BTS de secrétariat. Alors là, pour moi, c'est une claque terrible. Mais comme je suis une femme raisonnable, je me dis, bon, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de génial. Donc, je m'inscris et je vais en BTS, mais le cœur brisé. Et là, je m'aperçois qu'au lycée, j'étais avec un certain type de personnes, donc moyenne et haute bourgeoisie. Et donc, je me retrouve dans un lycée technique, où là, je ne trouve que des enfants d'ouvriers ou de petits artisans. Alors je me dis, tiens, c'est étrange. Et puis là, je m'ennuie terriblement avec la sténo, la dactylo, tout ça. Il n'y a que les cours de français et d'histoire qui m'intéressent un peu. Tout le reste, le droit de commerce, enfin tout ça, c'est bon. Mes parents trouvent ça bien parce que déjà, ils voulaient me faire arrêter les études en troisième. Et donc, que finalement, j'aille... alors là, ils trouvent ça un peu long quand même. Hein, mais bon, mais n'empêche, je vais apprendre des choses qui vont vraiment servir finalement. Et donc, on espère que bientôt, je vais pouvoir travailler et rapporter une paye. Donc, ils sont très contents.
Et en mai 68, mon père tombe malade, est hospitalisé à la Salpêtrière, donc au cœur de Paris. Nous habitions la banlieue. Je ne venais jamais à Paris, peut-être une ou deux fois par an, vers les grands magasins, boulevard Haussmann, mais c'est tout. Et là, pendant tout le mois de mai, mon père est à la Salpêtrière. Et je viens au quartier latin, pratiquement, enfin, juste à côté, tous les jours, pendant que mon père est en train de mourir, avec les manifestants de l'autre côté.
Nous a pas écoutés.
C'est un moment très fort parce que je me dis, il y a une violence terrible et tout ça, c'est, ça correspond à ce que je ressens moi à l'intérieur de moi, cette violence. Et donc je trouve ça très bien que l'autre côté ça pète. Quand je rentre chez moi, j'écoute la radio. De toute façon, de chez moi, on entend les déflagrations qui passent de la Seine et tout ça. Et donc pendant tout le mois de mai, j'ai ces deux choses-là. Mai 68, les révoltes, les barricades d'un côté, la mort de mon père, ouvrier, dans un hôpital près du quartier latin.
Nous sommes derrière les gardes-mobiles, ça brûle dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Les voitures se rembrouillent.
Quand mon père meurt, j'ai l'impression qu'on me l'a fait renier. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un peu honte, des fois quand il vient me chercher au lycée avec sa casquette, son air fatigué, tout ça. Et quand il meurt, je me dis, mais pourquoi on m'a fait renier mon père ouvrier, ma mère aussi, elle avait un peu honte d'avoir un mari ouvrier, donc tout ça. Je me dis, et donc je veux me racheter un peu par rapport à ça. Et donc j'achète La condition ouvrière de Simone Veil et Élise ou la vraie vie, et je me promène avec ces livres-là sous le bras. Je traverse toute la France avec le fourgon mortuaire, sans essence, avec des bidons. On emmène mon père pour l'enterrer dans la tombe qu'il a lui-même sculptée et qui se trouve dans le village où je suis née. Je crois que c'était donc vers la fin du mois de mai ou début du mois de juin, parce que les chambres froides étaient débordantes, on n'enterrait plus. Et donc voilà. Et après, là, je crois que je ne reviens pas en France tout de suite. Je reste en Italie, où ma sœur vit d'ailleurs. Je suis à la montagne, et là, un soir, dans un bar, il y a un homme qui est accoudé au comptoir. C'est un jeune ouvrier français. Lui, il dit qu'il est manœuvre, qu'il travaille dans une usine. Et moi, je m'approche, j'écoute, et j'ai avec moi Élise ou la vraie vie et la condition ouvrière. Alors, il me dit, c'est quoi ce truc? Bon, il me parle de mes livres, et puis il doit me trouver un peu policé. Lui vient de descendre des barricades. Il doit avoir 24 ans, 24-25 ans. Il a commencé à travailler à 14 ans. Il est complètement déçu. Il avait l'impression que plus jamais rien ne serait comme avant. Et puis en fait, lui et les gars qui sont autour de lui, ils croyaient que c'était le grand soir, qu'il ne travaillerait plus du tout comme c'était avant, les petits chefs et tout ça. Donc il est très en révolte. Ça me fascine tout ça. Donc je tombe raide amoureuse et puis lui aussi. Je pense que tous les deux, on a très peur. Lui, il a très peur parce qu'il pense qu'il n'est pas à la hauteur de ce que je suis. Moi, j'ai très peur parce que j'ai l'impression que je vais être entraînée dans quelque chose qui me dépasse et où je ne sais pas où je vais. Donc, on a très peur. On sait qu'on vit tous les deux dans la région parisienne. Donc, on décide de se revoir à la rentrée. Et on rentre à Paris. Et un soir, très vite, il vient. Alors, ma mère voulait que j'épouse un monsieur bien, sous tout rapport, qui puisse me faire une belle vie et tout ça. Quand elle voit que je suis avec un prolo, là, elle trouve que c'est absolument la catastrophe totale. Elle n'est pas du tout contente. Et là, on commence à se voir régulièrement. Et je décide que c'est à cet homme-là que je vais offrir ma virginité. C'est très symbolique. Et je trouve que c'est un magnifique cadeau que je lui fais. Donc je suis très heureuse et je vais lui faire une surprise. Mais je ne veux absolument pas être enceinte. Donc je me dis, il faut que je prenne la pilule qui vient juste d'arriver sur le marché là. Et je vais donc prendre un rendez-vous chez un médecin à côté de chez moi. Moi, je n'étais jamais allée chez un gynécologue de ma vie. Hein. Donc, il m'explique que de toute façon, je ne suis pas majeure, donc il ne peut pas me donner la pilule sans l'autorisation de mes parents. Moi, je vis comme une humiliation, puisque je suis en train de lui parler de ma sexualité à quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé de sexualité à personne. Mais à personne. Je n'ai jamais vu ni mon père, ni mon frère, ni ma mère, personne nu, jamais. Lui, il m'explique que ça se décide pas comme ça, que les jeunes filles doivent rester pures jusqu'au mariage et tout ça. Il me fait la morale. Donc moi, je suis chrétienne. Je communie tous les dimanches. Donc il est en train d'appuyer sur cette touche-là aussi. Donc je pars sans rien, en colère, humiliée, mais je suis têtue. Et donc j'avais entendu parler d'une fille qui avait été voir un médecin qui lui avait donné la pilule. Donc, je prends rendez-vous chez ce médecin, toujours un homme, à Montparnasse, près de Jockey Club et tout ça. Donc, c'est un quartier où les gens sont des mœurs libres. Donc, quand j'arrive chez ce monsieur, il me demande combien j'ai de partenaires. Alors là, moi, je suis bouche bée. Donc, je lui dis, j'en ai qu'un et qu'en fait, je n'ai pas de partenaire. Enfin, alors, je lui explique l'histoire de la virginité. Ça doit essayer d'étonner tout ça, je pense. Je pense que ça doit être assez drôle. Et il me dit, très bien, je vais vous examiner. Vous pouvez juste enlever vos slips, et vos chaussures, vous gardez vos chaussettes. Alors là, je tombe des nues parce que je ne pensais jamais qu'il me dirait une chose pareille. Je n'ai jamais montré mon sexe à personne, surtout pas à un homme. Donc je suis là, sans bouger. Je me rappelle juste que j'étais totalement stressée par tout ça, mais que je veux ma pilule. Donc après, il me donne la pilule, il me donne une ordonnance. À l'époque, c'était incroyable, parce que sans analyse, sans rien, c'était des doses quand même maus. Donc j'achète ma plaquette pendant 21 jours. Après le cinquième jour de mes règles, je prends ma pilule. Je suis pas mal au cœur, malade, parce que c'était des doses assez fortes. Donc, mais je ne dis à personne, je fais tout mon truc en cachette. Et quand le jour J arrive, où je me dis, ça y est, maintenant je suis protégée, je peux faire l'amour avec cet homme-là, et je vais le lui dire, et je vais lui dire que voilà, je t'offre mon corps. Donc je suis complètement émue, excitée, heureuse, vraiment. Et donc, c'est un samedi après-midi. Et donc, j'arrive. Je ne sais pas trop comment j'amène la chose. En fait, je lui dis que voilà. Moi qui suis vierge, italienne, catholique, etc. Je vais lui offrir, hors mariage, je vais lui offrir une nuit d'amour. Et là, lui, il est absolument abasourdi, peiné. Il comprend pas. Il a l'impression que je suis une stratège du sexe, je ne sais pas. Quelque chose qui ne correspond pas à l'idée qu'il a de moi, je pense, de quelqu'un de pur et de simple et tout ça. Et donc, il est complètement catastrophé. Et alors, moi, je lui dis, mais toi, tu m'as... Enfin, la révolution sexuelle, la liberté, etc., c'est ce que tu dis, hein, tout ça. Et la seule chose qu'il arrive à me dire, je crois, parce que sûr qu'il m'a dit ça, il m'a dit « Oui, mais toi, tu te rabaisses à faire comme n'importe quelle femme qui va prendre une pilule pour baiser avec quelqu'un, quoi. » Lui, normalement, c'est l'homme qui... la femme propose et l'homme dispose. Et là, c'est le contraire. Alors moi, c'est une blessure profonde aussi pour moi, une déception énorme. Et donc, je m'en vais reprendre mon métro en pleurant, là. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris que c'était un cadeau pour lui. Et donc, je m'éloigne et je suis malheureuse et je pleure. En fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à sortir de ça, à changer vraiment. Il y a une théorie et puis il y a la pratique. Et la pratique, quand il s'agit de ton propre corps, mais surtout... du corps de ta compagne, alors là, ça pose problème.
une fleur entre les lèvres, un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser, comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras, il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Il me dit je suis poète et caresse mes cheveux, en levant un peu la tête je vois qu'il a les yeux bleus.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec les filles de mai, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Renata, Ada Ruata, à Béatrice Ouin, à Julie Graff. Merci aux éditions de l'Atelier qui font paraître le livre Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu. France Culture et le Centre Pompidou, j'espère que vous êtes au courant, présente le festival Imagine 1968-2018, l'esprit de mai, c'est le week-end de la création et des idées. C'est les 28 et 29 avril en direct et en public au Centre Pompidou. En gros, c'est samedi et dimanche. Précipitez-vous, il y aura 4 masterclass, un concert du collectif La Souterraine, des marathons radiophoniques autour du thème 1968-2018, les révolutions culturelles, et la projection du fameux documentaire de Romain Goupil, Mourir à 30 ans. Ça n'est donc pas n'importe quelle manifestation autour de 68, c'est pointu, c'est passionnant, et c'est avec France Culture et le Centre Pompidou. À l'antenne, ce sera top aussi, ça a déjà commencé cette semaine, vous voyez, je suis très corporette, mais c'est sincère, avec notamment chaque jour de 17 à 18h, la série documentaire de Perrine Kervran qui présente cette semaine, et encore aujourd'hui, La Révolution n'est pas un dîner de gala, la radicalisation des mouvements d'extrême gauche après 68, par Christelle Le Polotech. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, cette semaine elle est en vacances, remplacée par Valérie Borst. Et c'est Céline Autain, notre stagiaire.
Je lui réponds moi aussi, ce qui est une voix morte.